Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Bienvenue si vous nous rejoignez dans RFI Soir. Retour dans notre débat de ce lundi sur ces pourparlers qui ont débuté ce matin à Astana au Kazakhstan. Des discussions sur la Syrie entre émissaires de Bachar al-Assad et représentants de certains rebelles syriens. Des discussions finalement indirectes puisqu'à la dernière minute, les représentants de l'opposition armée ont finalement refusé de négocier en face à face avec le régime syrien. C'est d'un renforcement du cessez-le-feu qu'il a été essentiellement question aujourd'hui, avec en ligne de mire, en cas de succès, une conférence internationale début février. Une conférence qui semble bien lointaine ce soir, puisque la première journée s'est conclue, nous dit-on, sans avancée, et manifestement les désaccords sont très nombreux. Ces pourparlers ont pourtant suscité de l'intérêt, si ce n'est de l'espoir, de la part des observateurs, car la configuration est nouvelle, inédite. Cette fois, la communauté internationale n'est pas au centre du dispositif, mais des discussions sont chapeautées par trois États, l'Iran, la Turquie et la Russie, qui a d'ailleurs choisi l'allié kazakh pour accueillir ces discussions. Alors après avoir fait la guerre, la Russie peut-elle faire la paix en Syrie? C'est notre sujet du jour, bienvenue. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. Agnès Levallois, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes consultante, spécialiste du Moyen-Orient, chargée de cours à Sciences Po. Avec vous, dans ce studio, Igor Delanoë, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur adjoint de l'Observatoire franco-russe, spécialiste des relations entre la Russie et le Moyen-Orient et auteur justement d'un livre, Russie, les enjeux du retour au Moyen-Orient, qui est sorti, je crois, le 12 décembre aux éditions L'Inventaire. Alors, je voudrais commencer par faire un rapide tour de table pour connaître votre position, ou plutôt peut-être votre sentiment sur cette première journée de discussion. Pas d'avancée apparente ce soir, c'est ce que je disais. Des rebelles qui promettent une reprise des combats en cas d'échec, ils l'ont dit dès ce matin. C'est mal parti, Agnès Levallois.
Écoutez, toute négociation est compliquée et encore plus compliquée dans le contexte du conflit syrien aujourd'hui. Je crois qu'il est important qu'il y ait cette tentative en tous les cas de négociation, puisque la population syrienne est exsangue, et ça je crois qu'il faut quand même absolument le rappeler. Ça fait faire pratiquement 6 ans que le conflit a commencé et que les combats ont été très violents dans la dernière partie de l'année 2016. Que cette conférence peut se tenir parce qu'il y a eu la prise d'Alep par les forces gouvernementales, et de cela par les Russes et les Iraniens et les différentes milices chiites, qu'elles soient libanaises, irakiennes ou iraniennes. Donc il y a un épuisement du côté de l'opposition, c'est absolument évident. L'opposition, les groupes armés n'ont pas beaucoup de choix aujourd'hui, de possibilités, et donc d'où l'acceptation à cette négociation, même si pour ces rebelles, c'est extrêmement compliqué de se retrouver face à la délégation gouvernementale, puisque celle-ci
et
continue.
Et face à l'Iran aussi, on va évidemment
bien sûr,
venir.
Parce que c'est vrai que cette délégation gouvernementale parle encore d'eux comme des terroristes, ce qui était aussi la terminologie utilisée par les Russes, mais les Russes ont un peu évolué, si je puis dire, de ce point de vue, parce que c'est vrai qu'auparavant, tout opposant était considéré comme un terroriste, mais le fait que la Russie organise cette réunion en conviant les groupes armé veut dire qu'il y a quand même une évolution et un signe, à mon avis, d'une volonté de la Russie quand même d'essayer de sortir de la dimension uniquement militaire pour arriver à un règlement plus politique, parce qu'il me semble que les Russes ne veulent pas rester indéfiniment coincés en Syrie et donc ils aimeraient bien la fin de ce conflit, même si c'est pas pour demain matin.
Vous partagez cette analyse, Igor Delanoë, finalement la Russie a envie que ça change en Syrie?
Oui, bah, je suis assez d'accord. En effet, qu'à l'issue du premier jour, on n'est pas abouti à une percée. À vrai dire, personne ne se faisait vraiment d'illusions que ça allait être long et effectivement compliqué. Vous rappeliez tout à l'heure qu'il y avait en ligne de mire la reprise des discussions à Genève à compter du 8 ou du 9 février, si elles reprennent. Puisque effectivement, si Astana n'aboutit à rien, Mohamed Alouche a rappelé qu'effectivement, à ce moment-là, on reprendrait les armes, ce qui n'est pas une surprise non plus. Pas besoin de préciser qu'effectivement, si on arriverait à Astana, non seulement les rebelles prendront certainement les armes, mais les Russes, les Iraniens, tout le monde reprendra le sentier de la guerre. Par conséquent, je dirais que les positions qui se sont exprimées aujourd'hui étaient globalement attendues. On est dans un rapport de force. Un rapport de force qui s'exprimait sur le terrain militaire, vous l'avez rappelé, depuis 6 ans, depuis un an pour la Russie, on va dire, avec cette intervention. Maintenant, on est dans un cycle diplomatique, tentative de résolution. On va voir.
Et alors, dans ce rapport de force, justement, est-ce que Agnès Levallois, la Russie est la seule à avoir une position qui serait un petit peu médiane, la seule qui pourrait obtenir le compromis, alors que rappelons qu'elle est à la fois acteur, diplomate dans l'histoire et belligérante, hein, elle a quand même ce double statut.
Bien sûr, c'est vrai que la Russie là engrange sur la bataille d'Alep et le fait que la conclusion de cette bataille d'Alep, c'est que les forces gouvernementales syriennes ont repris la ville, enfin la partie est qui était occupée par les rebelles, et que cette reprise n'a été possible que par le fort investissement militaire russe, mais également par la présence des Iraniens sur le terrain. Donc c'est vrai que c'est la Russie qui aujourd'hui est le maître de cette négociation, de cette tentative de négociation à Astana. C'est pas pour rien que ça se passe à Astana. D'ailleurs, c'est bien la démonstration de la puissance, enfin de la volonté russe d'affirmer que c'est elle qui a les cartes en main. Mais ce qui est compliqué, je crois, dans cette négociation, c'est qu'il y a aussi un autre acteur qui est extrêmement important, qui est l'acteur iranien, et que la convergence de vues n'est pas totale entre l'Iran et la Russie sur le devenir de cette négociation. Donc c'est vrai que la Russie est en position de force, ça se passe, j'allais dire, sur son terrain, hein, pas sur son territoire, mais sur son terrain. Mais il y a un autre acteur qui est l'acteur iranien, et donc là, la négociation va devoir aussi tenir compte de ses intérêts, parce que l'Iran a un peu le sentiment aujourd'hui que la Russie tire la couverture à elle, alors que c'est l'Iran qui est engagé militairement dans ce conflit depuis 2011, alors que la Russie, comme vient
oui,
de le rappeler...
Oui, et l'Iran regarde peut-être avec une forme de méfiance le rapprochement aussi entre la Turquie et la Russie.
Absolument.
Alors, on va y venir, mais d'abord, votre réaction sur cette centralité de la Russie dans ce qui se passe aujourd'hui, Igor Delanoë, est-ce que vous avez la même analyse qu'Agnès Levallois?
Bah écoutez, moi je dirais, pour reprendre le titre de l'émission, après la guerre, la Russie peut-elle faire la paix? Effectivement, depuis qu'elle est intervenue, elle a alterné les phases, je dirais, musclées d'opérations militaires avec ensuite les phases de cycles diplomatiques. Alors, à l'époque, avec les Américains, dans le cadre de la conférence de Genève, donc quelque part, ça fait déjà plusieurs mois, un an, qu'elle tente de construire, on va dire, un processus qui pourrait éventuellement aboutir à la paix. Ça n'a pas fonctionné avec les Américains, pour un tas de raisons, on pourra peut-être y revenir. Là, elle a finalement glissé vers un format plus régional qui a commencé à émerger, avec des puissances belligérantes, l'Iran, la Russie et la Turquie, qui est impliquée militairement dans le conflit depuis cette opération bouclier de l'Euphrate, mais qui était déjà partie prenante par ses positions et par le fait qu'elle appuyait une partie de l'opposition. Vous évoquiez tout à l'heure la terminologie effectivement qui a évolué côté russe. C'est un témoignage supplémentaire que depuis cette reprise d'Alep que évoquait effectivement Agnès Levallois, on a constaté un glissement sémantique dans la façon dont les Russes présentent l'opposition, qui n'est plus nécessairement systématiquement qualifiée de terroriste, mais d'opposition armée avec qui effectivement il va falloir discuter, avec qui on peut discuter, alors qu'avant c'était moins perceptible.
Donc finalement, oui, Agnès Levallois.
Oui, ce que je voudrais juste dire, c'est qu'on est aussi dans un contexte aujourd'hui où, à part la Russie, des puissances occidentales, je pense à l'Europe ou aux États-Unis, il y a une absence totale de capacité de ces acteurs qui, au début, étaient assez impliqués sur le dossier syrien, qui se sont retirés progressivement, si je puis dire. Enfin, le meilleur exemple, c'est la façon qu'ont eu les Américains de gérer cette crise syrienne, avec le fameux retrait de 2013, lorsqu'il y a eu la ligne rouge franchie par Bachar el-Assad, avec l'utilisation d'armes chimiques et le fait qu'il n'y ait pas eu d'intervention américaine à ce moment-là. C'est vrai qu'on a assisté à un retrait des États-Unis sur ce dossier, qui ne veulent pas du tout s'engager. Obama ne voulait pas s'engager sur ce dossier. Une Europe complètement inexistante en tant que telle, j'entends, hein, puisqu'il y avait des accords profonds entre les pays européens sur savoir comment faire. Le seul pays européen un peu engagé, véritablement, c'est la France, mais toute seule, elle a bien montré son incapacité à pouvoir agir toute seule. Et donc, face à cette espèce de situation de vide, si je puis dire, de puissance diplomatique, c'est vrai qu'il y a eu un boulevard qui a été offert à la Russie et que la Russie l'a complètement investi, je veux dire naturellement, puisqu'elle avait personne en face d'elle qui pouvait à un moment ou un autre dire, bon là, il faudrait peut-être faire attention. Et donc là, la Russie profite de cette situation. Maintenant, on va voir avec Trump si les choses vont évoluer ou pas. Mais je crois qu'il y a aussi cette particularité de la situation qui fait que la Russie peut vraiment gérer ce dossier comme elle l'entend, sans avoir de véritables interlocuteurs. Le seul interlocuteur peut-être important aujourd'hui pour elle et qui peut la mettre en difficulté, c'est l'Iran.
Alors peut-être sur l'Iran, puisque vous en parlez pour la deuxième fois, Agnès Levallois, quel est le problème finalement aujourd'hui? C'est que ce que veut la Russie, ce n'est pas exactement ce que veut l'Iran, qui elle voudrait que Bachar el-Assad continue de contrôler l'entièreté du territoire syrien. Elle est grave cette divergence de vue entre Moscou et Téhéran aujourd'hui, Igor Delanoë?
Écoutez, je dirais que bon, les Russes et les Syriens ont forgé une alliance de circonstances, une alliance militaire de circonstances, à l'occasion de ce conflit en Syrie, puisque, comme le rappelait Agnès Levallois, les Iraniens sont impliqués militairement dans ce conflit à différents degrés hein, depuis 2011. On estime qu'ils ont dépensé à ce jour presque 25 milliards de dollars pour ce conflit, que une grande partie de leur économie est orientée pratiquement vers l'économie de guerre pour financer cet effort-là qui est immense pour un pays qui était sous sanctions, les sanctions qui se progressivement, et qui, en 2015, n'a eu d'autre choix que de se tourner vers la Russie pour lui demander sa puissance de feu pour éviter l'effondrement du régime. À ce moment-là, on va dire que les agendas régionaux de l'Iran et de la Russie coïncidaient, continuent de coïncider encore en quelque sorte, dans ce qui s'apparente plus à un rapprochement tactique, la continuation d'un rapprochement tactique qu'à un rapprochement stratégique, puisque effectivement, là où les choses vont commencer à être compliquées, c'est lorsqu'on va évoquer d'une part l'avenir effectivement du président syrien Bachar el-Assad en tant que tel, et peut-être de son premier cercle, et d'autre part la forme que pourrait prendre à l'avenir la Syrie en fait. Dans quel cadre est-ce qu'on va se trouver ? Confédération, enfin une fédéralisation de l'État, une décentralisation, quelle forme tout cela va prendre ? Et là, on sent bien qu'il y a des dissonances, puisque effectivement les Iraniens
semblent... La difficulté en fait, elle est même avant les discussions entre le régime, les représentants du régime et les représentants de l'opposition, c'est qu'au sein même d'un seul bloc, on n'est pas du tout d'accord. C'est ce que vous êtes en train de nous dire sur ce qu'il pourrait advenir dans le processus politique d'après.
Oui, mais même au sein de l'opposition, ils ne sont pas forcément d'accord entre eux sur qu'est-ce qu'il faudra faire ensuite, quelle serait la forme de gouvernance en Syrie. Et certains sont même prêts à accepter très temporairement la présence de Bachar el-Assad, si cela peut éventuellement conduire à long terme à une solution qui mette tout le monde d'accord, ce qui n'est pas le cas de tous les groupes. Donc déjà entre eux, c'est assez compliqué.
Et Agnès Levallois ?
Oui, on est dans une situation effectivement où chacun a son propre agenda, chacun a ses propres objectifs dans la tentative de règlement de ce conflit. Donc il n'y a pas forcément les mêmes objectifs entre l'Iran et la Russie, il n'y a pas forcément les mêmes objectifs avec la Turquie, qui est un acteur aussi, qui est à nouveau très actif, et il a toujours été actif hein, comme acteur, la Turquie. Mais c'est vrai qu'on a vu là, avec le rapprochement avec la Russie, un changement d'attitude quand même très important de la part de la Turquie, et qui permet aussi la tenue de cette réunion, parce que la Turquie a exercé des pressions sur un certain nombre de groupes rebelles qu'elle finance et qu'elle a aidé depuis le début de ce conflit.
Et d'ailleurs, notre envoyé spécial à Astana nous expliquait dans une correspondance dans le journal de 19h que finalement, ce qui s'est passé aujourd'hui, ça avait été rendu possible par les émissaires russes et par les émissaires turcs qui manifestement ont été déterminants dans les discussions qui se sont passées aujourd'hui. Par contre, avec les Iraniens, évidemment, ça bloque.
Et oui, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que, en gros, quand même, les Russes et les Iraniens sont sur la même ligne de façon grossière, même s'il y a des divergences dont on vient de parler. Mais le gros problème pour la réunion d'Astana, c'était que des groupes rebelles viennent. Et qui a un moyen d'action de pression sur les groupes rebelles ? Il y a uniquement la Turquie qui pouvait le faire, parce que c'est elle qui, en tous les cas, en contrôle un certain nombre d'entre eux, même si la Turquie ne contrôle pas tous les groupes. Donc, l'intervention de la Turquie a été déterminante pour permettre à ces groupes rebelles, à ces chefs rebelles, de venir à Astana, puisque rappelons quand même que dans les négociations précédentes de Genève, c'était l'opposition politique qui était invitée et en aucun cas l'opposition militaire. Et là, le fait nouveau de Astana, c'est que ce sont les chefs militaires et non pas les chefs politiques qui sont invités à la table des négociations. Et la venue de ces chefs militaires n'a été possible que par l'intervention turque. Mais les Turcs n'ont pas là encore le même objectif que les autres parties prenantes. L'objectif numéro un des Turcs dans cette histoire, quel était ? C'est simplement de faire en sorte que les Kurdes ne profitent pas de ce conflit en Syrie pour essayer d'obtenir une certaine autonomie. Donc l'objectif des Turcs, c'est de faire en sorte, effectivement, en intervenant là, que un certain nombre de groupes rebelles luttent aujourd'hui contre les Kurdes, beaucoup plus que contre les forces de Bachar el-Assad.
Alors, vous
on
vous
est dans une situation extrêmement complexe.
Alors effectivement, la transition est toute trouvée. Je voulais quand même qu'on parle des absents. On a parlé des présents, là, à Astana. Il y a aussi beaucoup d'absents qui ne sont pas là. Les Kurdes, notamment. Est-ce que ça a du sens aujourd'hui, Gordon Lanoé, de mener des pourparlers sur l'avenir de la Syrie sans les Kurdes, qui en plus sont prévenus, hein. Les miliciens kurdes aujourd'hui, des unités de la protection du peuple, disent en gros, nous ne serons pas obligés par ce qui pourrait se décider à Astana.
Oui, ils ont clairement dit qu'ils ne se sentiraient pas liés par les engagements qui seraient pris à Astana du fait de leur absence. Bon, il faut préciser qu'effectivement, les Kurdes du PYD ne sont pas présents en tant que tels à Astana, effectivement, puisque les Turcs ont clairement refusé leur présence. Il y a des Kurdes qui sont présents dans le cadre d'une délégation envoyée par le Conseil national syrien, mais une fois de plus, ce ne sont pas les mêmes Kurdes, c'est des Kurdes qui relèvent plus d'une autre zone d'influence, celle du Kurdistan irakien, et par conséquent, ce ne sont pas exactement les mêmes. Effectivement, l'objectif des Turcs, qui était d'ailleurs l'objectif de leur opération armée dans le nord de la Syrie, c'était d'éviter la formation d'un Kurdistan syrien, en tout cas avec une continuité territoriale telle que cela puisse éventuellement donner suite à la création d'une entité partiellement ou totalement autonome en Syrie, et ensuite effectivement la lutte contre les djihadistes de l'État islamique. Mais en fait, ce à quoi on assiste à Astana aujourd'hui, c'est l'aboutissement quelque part du réchauffement des relations entre la Russie et la Turquie qui a été engagé dès l'été dernier. Et s'est monté, je dirais, progressivement, crescendo par étapes, et même le dénouement de la bataille d'Alep est le fruit de ce réchauffement-là, puisque sans la Turquie...
Alors même si ici, même dans ce studio, on avait des analystes qui nous disaient que c'était aussi une grande victoire de l'Iran que la bataille d'Alep.
Oui, mais il y a plusieurs choses. Il y a effectivement le fait que la Turquie a en gros coupé les vivres et arrêté de soutenir logistiquement, militairement l'opposition qu'elle a sous sa coupe. Au passage, je précise que les gens de l'opposition armée qui sont à Astana sont en gros les groupes sur lesquels la Turquie a de l'influence. Ce ne sont pas les autres, ce ne sont pas nécessairement les groupes qui se trouvent notamment dans le sud du pays. Absolument. Qui dépendent beaucoup plus de l'aide saoudienne et via la Jordanie.
Alors justement, donc mener ces pourparlers aujourd'hui, donc sans, on l'a dit, certains Kurdes, sans certains groupes rebelles dont certains très influents, sans les djihadistes de l'EI, alors on imagine à quel point ce serait compliqué, mais ouais. Est-ce que c'est pas le début d'une sorte, je ne sais pas comment dire, d'officialisation d'une option de morcellement de la Syrie. Je ne sais pas, je m'exprime
oui,
pas très
si,
bien,
Agnès Levallois. C'est un grand thème qui revient régulièrement aujourd'hui dans les commentaires, de savoir si on arrive à un morcellement de la Syrie, pas une division, est-ce qu'on va aller vers une fédéralisation, enfin, quel est le système qui va être mis en place dans le cadre d'un règlement de paix. Donc ce que l'on voit clairement, c'est que chaque parrain de présent sur ce terrain, puisque ce conflit syrien, finalement, c'est très vite régionalisé puis internationalisé, et avec un certain nombre de parrains qui agissent les uns sur les autres, c'est vrai que ça donne l'idée qu'à terme on va avoir un découpage de cette Syrie. Ceci dit, l'idée même de découpage, moi, me pose problème, dans le sens où on n'a pas des zones, si vous voulez, qui sont homogènes d'un point de vue soit ethnique, à part les Kurdes, ou confessionnel. Et donc, sur quelle base envisager...
Et surtout des zones qui vont bouger, puisqu'il y a des combats qui sont encore en cours.
Oui, et puis il y a la moitié de la population qui est déplacée ou réfugiée, donc si les réfugiés ou les déplacés reviennent, qu'est-ce qu'il va en advenir? Donc, c'est vrai que cette idée de découpage est une idée qui revient de façon permanente dès qu'on parle de la Syrie, parce qu'on a dans l'idée aussi l'Irak avec des zones qui sont clairement identifiées. La région chiite est claire, sunnite est assez claire, et la région kurde est assez claire. On a l'exemple du Liban, qui est aussi quand même dans notre imaginaire ici en Occident et en France, très fort. Donc, c'est pour ça que dès qu'on parle de la Syrie, on a l'idée qu'on va plaquer, ou en tous les cas, qu'on va avoir cette même. Je crois que dans le cas de la Syrie, ça sera beaucoup plus compliqué, ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas aller vers un système fédéral le jour où,
et
ça sera peut-être une solution,
là.
Mais je crois qu'on n'en est vraiment pas là.
Et alors, il y a un mot que vous avez déjà prononcé, c'est évidemment Donald Trump, enfin deux mots. Igor Delanoé, est-ce que ça va tout changer? Qu'est-ce qu'il faut
Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'on parlait des grands absents tout à l'heure. Les Américains ont failli faire partie de la liste des absents, effectivement, à cette conférence. Ils y sont, d'une manière un petit peu fantomatique, on pourrait dire, parce que l'ambassadeur n'a pas de grand pouvoir. On pourrait parler aussi du Qatar et de l'Arabie Saoudite qui ne sont pas représentés. Il semblerait, compte tenu des derniers développements intervenus sur le terrain au cours des derniers jours, que la coalition emmenée par les Américains semble, je dirais, de facto appuyer ce qui se passe à Astana par ses opérations, notamment autour d'Idlib.
Agnès Levallois, en quelques mots, il nous reste 45 secondes.
Ce qui est frappant, c'est qu'on n'a pas dû parler de l'Europe, qui est aussi la grande absente de cette réunion, et donc c'est très significatif.
Eh bien, merci, on restera là-dessus, constat. Terrible pour l'Europe, encore une fois, mais on restera dessus. Merci beaucoup à nos deux invités, Agnès Levallois, consultante spécialiste du Moyen-Orient et des questions méditerranéennes, chargée de cours à Sciences Po, Igor Delanoé, auteur de Russie, les enjeux du retour au Moyen-Orient, sorti il y a quelques semaines. C'était mi-décembre. Merci également à Florence Ponce, à Valentin Vaner. On se retrouve demain pour un nouveau débat sur RFI.
Appelez-nous, exprimez-vous.